Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio. Le murmure des mots. Le soubresaut de l'idée. Et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes le 22 mars 2019. Et à l'UOG, l'UOG qui est donc en place du cercle ici, juste derrière la gare à Genève, va avoir lieu une projection, Rojava, une utopie au cœur du chaos syrien, avec un sous-titre qui est le suivant, ou l'utopie réaliste d'un projet kurde, démocratique, laïque et féministe. Alors il est co-réalisé par toi, Mireille Cour, merci de prendre du temps pour répondre à ces quelques questions.
Merci
donc,
à toi.
Mais avec plaisir. Donc tu es journaliste indépendante et membre de la coordination Solidarité Kurdistan. Alors, allons-y directement. Ce documentaire, d'où est née l'idée ?
L'idée est née, en fait, avec mon compagnon caméraman. Ça faisait déjà une vingtaine d'années que nous faisions des voyages et des films et des reportages au Kurdistan de Turquie, c'est-à-dire dans la région sud-est de la Turquie. Et nous avions d'ailleurs fait un film en 2004 dans les montagnes de Kandil, dans les camps de guérilla du PKK. À l'époque, ça n'intéressait personne parce que les Kurdes n'étaient pas à la mode, parce que les Kurdes n'avaient pas encore bloqué la progression fulgurante de l'État islamique. Et donc, ils étaient considérés comme des terroristes. Donc, ce film avait été très peu diffusé. Ensuite, quand les événements en Syrie, la révolution en Syrie a commencé, nous avons essayé de nous rendre plusieurs fois dans la partie kurde syrienne, qu'on appelle maintenant le Rojava, mais qui de fait maintenant s'appelle la Fédération démocratique du nord de la Syrie. Et c'était extrêmement compliqué. On n'arrivait pas à obtenir les visas, on n'arrivait pas à passer. Finalement, on est arrivé à passer en juillet 2017. C'était donc en pleine bataille contre l'État islamique encore, en particulier à Raqqa. Mais notre projet n'était pas, comme la plupart des journalistes, d'aller sur le front, de faire des belles images des combattants et combattantes, surtout des YPG, YPG. Mais c'était de documenter la réalisation d'un projet qui s'appelle la Fédération démocratique du nord de la Syrie, mais qui en fait est un projet politique extrêmement élaboré, extrêmement intéressant, extrêmement révolutionnaire, et qui consiste à mettre à égalité tous les peuples, toutes les religions, les sexes, dans une égalité complète avec une démocratie directe dans le fonctionnement de la région, dans la gouvernance de la région.
Alors on va revenir bien entendu là-dessus. Avant cela, pour introduire le sujet plus à fond, j'aurais voulu citer, redire une citation que vous avez envoyée dans le communiqué de presse qui est la suivante. Nous ne voulons pas un Kurdistan indépendant pour les Kurdes, mais une fédération démocratique et pluraliste pour tout le monde. Ça revient sur justement cette dénomination Fédération démocratique du nord de la Syrie. Alors, peut-être qu'il nous faudrait poser quelques jalons avant d'aller plus loin. Donc le Rojava, si on définissait le territoire, la superficie, pourrais-tu nous en dire quelques mots ?
C'est un territoire assez grand comme la Belgique. Hein, donc ça représente quand même 30% de la Syrie actuellement. Donc ce n'est pas négligeable, ce n'est pas un tout petit territoire. Au début, le Rojava, c'était les provinces donc du nord-est de la Syrie qui étaient à majorité kurdes. Mais au fil des mois et des années de la bataille contre l'État islamique, les Kurdes ont avancé à l'ouest, beaucoup plus à l'ouest, On traversait l'Euphrate et donc on, en particulier vaincu l'État islamique dans sa capitale Raqqa. Voilà. Et donc maintenant, il ne s'agit plus uniquement d'une région kurde. À la limite, on peut dire que les Kurdes sont presque minoritaires dans cette fédération démocratique du nord de la Syrie, et y compris d'ailleurs dans les forces armées qui ont accompli la prouesse de vaincre l'État islamique, il y a maintenant 60% d'Arabes. Et les Kurdes sont minoritaires dans cette armée.
C'est vous, hein. Parce qu'effectivement, on va préciser, le Kurdistan, si on prend le Kurdistan à large spectre, dans son unité, il est à cheval sur quatre pays qui sont l'Iran, l'Irak, la Turquie et le nord de la Syrie.
Oui, bon, ça c'est le résultat des négociations impérialistes qui ont suivi la Première Guerre mondiale, hein, et les différents traités de Sèvres et de Lausanne en particulier, qui ont songé un instant à donner un territoire aux Kurdes, et puis qui sont revenus en arrière et qui ont partagé cette région qui était majoritairement kurde. Mais il y a toujours eu énormément d'autres peuples dans la région, hein. La région est une mosaïque de peuples.
Voilà, ça c'est bien précisé. Et d'ailleurs linguistiquement également.
Et également. Et donc l'impérialisme a, en particulier les accords Sykes-Picot, le résultat a été le partage de cette région kurde qui avait été évoqué à un moment donné, entre quatre États, donc l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Et le lieu choisi par la guérilla du PKK pour s'installer et installer ses camps de guérilla, ce sont les monts Kandil, qui géographiquement se trouvent en Irak, mais qui sont en fait au centre géographique de ce qu'aurait pu être un Kurdistan, une république du Kurdistan démocratique, etc., mais qui n'a jamais existé.
Absolument. Alors, allons-y. Deux noms pour commencer. Abdullah Öcalan, bien entendu, et puis évidemment Mireh Bükçin, puisque on sait qu'il y a l'influence du municipalisme libertaire dans ce que Öcalan définit comme le confédéralisme démocratique et qui est une des singularités justement que contient le Rojava.
Oui, en fait le PKK à l'origine était un parti marxiste, léniniste, etc. C'est un parti qui a évolué, en particulier sous l'influence de son leader, hein, Abdullah Öcalan, qui est en prison sur une île isolée depuis 1999. Et déjà dans les années 90, Abdullah Öcalan avait évolué sur la question de la demande d'indépendance. Le PKK avait évolué sur cette question-là et proposé à la Turquie un système fédératif, simplement en réclamant une autonomie en fait de la région kurde en Turquie. Demande qui avait évidemment été rejetée directement par l'État turc, très centralisé, etc. Et cette réflexion a continué à évoluer. Et de sa prison, en fait, Abdullah Öcalan a commencé à entretenir une correspondance avec un intellectuel américain, libertaire, anarchiste, qui avait élaboré toute une théorie sur le retour à une véritable démocratie pré-capitaliste, en fait, qu'il appelle le communalisme, c'est-à-dire la commune étant la commune, le village, le quartier d'une ville, etc., étant la base de la démocratie, et ensuite élisant des délégués qui participent à des assemblées de ville ou régionales, etc. Donc on parle d'une démocratie de base, et sur toutes les décisions, par exemple implantation d'industrie ou construction de barrages, etc., la base, la commune, ayant son mot à dire sur toutes ces décisions-là. Et donc Abdullah Öcalan a été très intéressé par ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, hein, puisqu'il était en prison. Il y avait Maui Bookchin a eu à un moment le projet de venir mais le voir, mais même il était déjà très malade et il est décédé en 2006. Bon, donc Öcalan a commencé à travailler depuis sa prison sur ce projet et a effectivement élargi son projet, enfin le projet du PKK qui était de demander une fédération à l'intérieur de la Turquie à une remise en cause globale de l'État-nation. En théorisant le fait qu'en fait l'État-nation était la source même du capitalisme et de l'impérialisme et de la colonisation, ou inversement le résultat de l'impérialisme et du colonialisme. Donc le mal premier venant de l'État-nation, l'idée est de partir sur une autre base, une base de confédération des peuples, où tous les peuples soient à égalité, quelle que soit leur religion, leur croyance, leur sexe, etc. Et donc ce projet a commencé à être appliqué, en fait, pas seulement au Rojava, il a commencé à être appliqué par un parti turc qui a émergé assez récemment, qui s'appelle le HDP. Et ce parti a commencé à faire campagne en Turquie, hein, sur des bases de la démocratie locale, l'égalité entre les sexes, etc. C'est un parti qui a quand même intégré dans ses candidats aux élections des Arméniens et a envoyé des députés arméniens au Parlement turc. C'est pas un petit exploit, c'est pas anodin. À envoyer des députés LGBT au Parlement turc, c'est pas anodin non plus. Et donc c'est un parti qui a provoqué la fureur du président Erdogan, évidemment, et qui en juin 2015 s'est retrouvé mis en minorité par le nombre très important de voix qui se sont portées sur ce parti, le HDP, qui a eu 14% des voix aux élections, qui a mis en danger, en fait, la majorité de l'AKP à l'Assemblée. Donc Erdogan a déclenché une véritable campagne de déstabilisation entre juin et novembre, où il y a eu de nouvelles élections, avec attaque des locaux du HDP, avec mais le HDP a quand même conservé 10% des plus de 10% des voix, donc a gardé quand même 60 députés malgré la terreur instaurée dans le pays par l'AKP et le président Erdogan. Donc la seconde phase a été d'emprisonner d'emprisonner les maires, de destituer les maires des villes kurdes, de les remplacer par des administrateurs du HDP en les accusant d'acquaintance avec l'organisation terroriste le PKK, et d'emprisonner pour la même raison de nombreux députés dont le président et la coprésidente, présidente Salahettin Demirtas et la coprésidente du HDP, qui sont actuellement en prison et qui resteront probablement de nombreuses années. Donc cette expérience, je reviens à ce que je disais au début, avait déjà été appliquée en Turquie dans les municipalités où le HDP avait été élu très souvent avec des pourcentages frôlant les 90% ou dépassant les 90%. Donc les maires de ces maires avec 90% des voix ont été destitués. Mais à partir de 2014, il y a eu l'expérience du Rojava qui s'est réellement mise en place. C'est-à-dire que il y a eu une première une première attaque de l'État islamique sur le territoire syrien. Jusque-là, l'État islamique s'était contenté de prendre presque tout l'Irak, hein, d'occuper presque tout l'Irak, et avait d'ailleurs massacré dans la région de Shingal ou Sinjar, selon si on dit en kurde ou en arabe, les populations yézidis, qui sont une religion particulière de la communauté kurde, et qui se trouve au sud-ouest de l'Irak, enfin à la frontière en fait avec la Syrie et la Turquie par la même occasion. Et donc au sud du Kurdistan d'Irak en fait. Et cette communauté a été attaquée par l'État islamique et littéralement massacrée, les hommes massacrés, les femmes prises comme esclaves sexuelles, etc. Et l'armée irakienne les a absolument pas défendues. C'est le PKK qui est descendu des montagnes de Kandil et qui a organisé le sauvetage des yézidis, qui a organisé les couloirs pour leur permettre de rejoindre la sécurité en territoire syrien, etc. Donc ensuite, l'État islamique s'est attaqué carrément au territoire syrien, a commencé à attaquer la région de Kamishli, la région d'Asaké. Et ces attaques ont provoqué la réaction et la formation des forces de défense qui se sont appelées YPG pour les hommes et YPG pour les femmes, qui ont pris les armes et qui ont défendu les villes, etc. Et qui ont tenu en échec et qui ont libéré, par exemple, la ville de Kamishli, qui ont libéré la ville d'Asaké. Jusque-là, il y a eu une certaine indifférence internationale. L'intérêt a commencé au moment de la bataille de Kobané. Alors, la bataille de Kobané, ça a été quelque chose de très très symbolique, parce que il faut comprendre que l'État islamique semblait inarrêtable, impossible à vaincre. L'armée irakienne avait baissé les bras, l'armée syrienne aussi d'ailleurs. Et leur avancée semblait impossible à arrêter. Et puis, cette petite ville de Kobané, d'un coup, qui est encerclée par d'énormes forces de l'État islamique, refuse de se rendre et résiste. Il faut comprendre que dans les derniers temps, il restait 4 ou 5 maisons encore tenues, de toute la ville encore tenues par les YPG et YPG. Tout le reste avait été détruit dans Kobané. Et à ce moment-là, il y a eu une petite réaction, effectivement, de la communauté internationale, et les Américains ont commencé à bombarder de façon, au début, un petit peu au hasard. C'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de lien avec les combattants sur le terrain. Et ensuite, a un petit peu obligé les Kurdes d'Irak, le KRG, le gouvernement de la région kurde d'Irak, à envoyer des combattants qui n'étaient pas vraiment des combattants. En réalité, c'était des gens qui convoyaient des armes un peu plus sophistiquées que les Kalachnikov, hein, des combattantes et combattants YPG et YPG. Et surtout, des systèmes de repérage qui permettaient aux avions américains, aux avions états-uniens, de cibler réellement les quartiers, les maisons tenues par l'État islamique, au lieu de bombarder au hasard. Et ça a changé un petit peu la donne des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bataille a été un énorme sacrifice, hein. Il y a eu des milliers de combattants et de combattantes qui sont morts dans cette bataille. Des YPG, YPG et aussi énormément de combattants du PKK qui étaient venus de Turquie. Mais Kobané est devenu un symbole. Et le monde a été quand même impressionné par cet immense courage et cette immense capacité de résistance. Et à partir de là, c'était quand même très symbolique parce que la prise de Kobané ouvrait la voie pour l'État islamique à aller jusqu'au Liban, jusqu'au nord du Liban, à ouvrir le corridor. Et c'était un enjeu extrêmement important. Et ce sont pas les bombardements américains qui ont réalisé cet exploit de les arrêter, ce sont les combattants et les combattantes kurdes de Syrie et de Turquie.
Et une deuxième date qui peut être également emblématique quelques années après, c'est Afrin, où là, la communauté internationale, peut-on dire, a tout de même saisi la mesure de ce qu'il y avait. Là, c'était avec le gouvernement turc, avec Erdogan, qui envoie ses troupes.
Oui, Afrin, c'est terrible. Afrin, même actuellement, quand on parle avec n'importe qui, arabe, turkmène, kurde, au Rojava, les gens ont les larmes aux yeux. La perte d'Afrin, c'est une énorme souffrance pour toutes les populations du nord de la Syrie, quelle que soit leur religion ou leur ethnie. C'était une région extrêmement paisible, très pacifique, qui avait accueilli des dizaines de milliers de réfugiés yézidis, mais aussi syriens, mais aussi de toutes les régions, où il n'y avait absolument pas de guerre, où tout se passait très bien. C'était une région très prospère. Et brutalement, Erdogan annonce qu'il va prendre Afrin. Et tout se passe assez vite finalement parce qu'il y a eu un accord secret entre les Russes, les États-Unis et la Turquie, et que les Russes ont laissé, puisque cette région était sous influence russe à cause de la proximité des bases russes, de Tartous à il y a eu un accord qui s'est passé évidemment par-dessus la tête des Kurdes, puisqu'ils ne sont jamais convoqués à aucune des négociations qui déterminent l'avenir et le sort des populations locales. Erdogan a attaqué Afrin. Les FDS n'avaient absolument pas les moyens matériel de se défendre contre des vagues de F-16 qui bombardaient en permanence toutes leurs positions. Les FDS n'ont pas d'aviation, n'ont pas d'armes antiaériennes, n'ont pas de moyens pour lutter contre une armée comme l'armée turque qui est extrêmement puissante et extrêmement bien armée puisque c'est l'OTAN. Donc une grande partie de la population a été évacués, surtout les yézidis d'ailleurs en premier lieu parce que ils ont déjà subi un massacre et un deuxième, ça aurait été insupportable. Une grande partie de la population civile a été évacuée par les FDS et évidemment l'État turc a occupé la région de la province d'Afrin qui faisait partie de la fédération, bien que séparée des autres cantons, faisait partie de la fédération démocratique du nord de la Syrie, c'est-à-dire avait ses communes, son assemblée régionale, avait son... Et maintenant, il se produit un remplacement de population, c'est-à-dire que les Turcs font venir de la région d'Idleb tous les combattants des brigades islamiques évacués de la Ghouta en particulier. Et les installent avec leur famille. Donc ils les installent dans des maisons qu'ils volent aux habitants, et sur des terres volées également. Ils y commettent tout un tas d'atrocités comme ils en ont l'habitude. Ils brûlent les oliviers, ils tuent les gens, ils volent tout. Ils enlèvent des filles, etc. Donc c'est une véritable catastrophe ce qui est en train de se passer à Afrin. Et d'ailleurs, les FDS n'ont pas l'intention, bien qu'ayant évacué Afrin en grande partie, de se laisser faire. Il y a toujours des opérations à Afrin pour parce que Afrin, ils ne veulent pas lâcher Afrin.
Puis, comme tu l'as dit, sur le plan symbolique, également, il y a quelque chose qui se joue là. Peut-on dire que l'État islamique est aux abois ? Selon toi, est-ce qu'on peut le dire ? Et si c'est le cas, et derrière, quelle transition ?
Alors, la situation en ce moment est très compliquée parce que, comme toujours, il y a des négociations secrètes, etc. Mais les dernières batailles, grandes batailles, en particulier celle de Baghouz qui est en train de se mener actuellement, tout le monde trouve que ça dure un peu longtemps. Bon, il est certain que il reste des populations civiles dans la région de Baghouz et que les FDS ne veulent pas qu'il y ait un massacre de populations civiles. Ok. En même temps, c'est aussi un enjeu politico-stratégique parce que une fois que le dernier bastion de l'État islamique sera tombé, il n'y a aucune garantie actuellement pour que les FDS continuent à obtenir et le Rojava continue à exister et les FDS continuent à obtenir un soutien. On est dans la situation où le président Trump a décidé de retirer les troupes américaines et oui.
On peut y aller parce que c'est du... Oui, j'allais vous demander justement combien de temps...
Dans 10 minutes, on peut y aller.
Une dernière question après celle-là, puis on s'arrête.
Voilà,
vas-y, continue.
Et donc, l'avenir du Rojava est extrêmement fragile. Cet avenir, il dépend de négociations qui se passent entre Russes, Américains, Turcs et État syrien en dernier lieu, puisque l'État syrien est un peu aux ordres, reçoit les ordres qu'on lui donne actuellement. Et donc, ils se font énormément de soucis. Ils n'ont pas les moyens matériels, c'est la même chose pour Afrin, de résister à une véritable offensive turque. Et les Turcs menacent d'attaquer le Rojava. Et en plus, les négociations se font avec des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la question. Par exemple, le président Macron dit « Ah, les Turcs demandent une zone de sécurité qu'ils pourraient occuper de 12 kilomètres à l'intérieur du Rojava pour empêcher des attaques. » Bon, il n'y a jamais eu d'attaque de la part du Rojava par rapport à la Turquie. Mais par contre, une zone de 12 kilomètres, ça veut dire que la ville de Kamishli est occupée, et c'est la capitale du Rojava, est occupée par les Turcs. La ville de Kobané est occupée par les Turcs, etc. Donc toutes les villes emblématiques du Rojava sont occupées par les Turcs parce qu'ils sont à moins de 12 kilomètres de la frontière. Mmh. Voilà.
Mireille Court, on va s'arrêter là parce qu'effectivement, nous allons voir le documentaire. Alors, tu es co-réalisatrice en compagnie de Chris Denrand de Rojava, une utopie au cœur du chaos syrien. Petite dernière question, que reste-t-il de ces rencontres que tu as fait là-bas ? Des contacts sont-ils encore en cours et voudrais-tu pourquoi pas y retourner pour continuer cette investigation ?
Bien sûr, bien sûr. Bon, on y est allé deux fois et on espère pouvoir y retourner bientôt. Bien sûr qu'on a noué des liens amicaux et affectifs importants avec l'expérience qui se produit là-bas. C'est dommage que j'ai pas eu le temps de parler de la question des femmes parce que c'est une question absolument centrale dans l'expérience du Rojava et j'ai pu constater sur place qu'il y avait vraiment c'est ce qui se passe au niveau des femmes, c'est quelque chose de magnifique parce que on part d'une société qui est extrêmement conservatrice, très très conservatrice, la société kurde du nord de la Syrie, et on arrive à une expérience où non seulement les femmes sont considérées comme à égalité dans la constitution, dans le contrat social de la Fédération démocratique du nord de la Syrie, une espèce de constitution qui met à égalité les femmes, mais tout tout est très détaillé dans cette égalité. Par exemple, il y a égalité dans l'héritage, et ça c'est extrêmement important. Il y a égalité dans le divorce, ça c'est extrêmement important aussi. Il y a parité totale dans toutes les organes de représentation de la société civile, les associations, au niveau des conseils législatifs, etc. Mais il y a vraiment un souci permanent de mettre les femmes à égalité, de leur donner les moyens de sortir du carcan de la famille, par exemple en les envoyant, et ce qui n'est pas du tout évident dans cette société-là, en envoyant les jeunes femmes et les jeunes filles, et même celles qui sont plus âgées, faire des stages de formation sur ce qu'ils appellent la gynécologie, c'est-à-dire la science des femmes. Mais ça veut dire pour une jeune fille ou une jeune femme ne pas dormir dans sa famille pendant 15 jours, c'est inimaginable dans cette société-là, de ne pas rentrer dormir à la maison dans la famille tous les soirs, et c'est inimaginable pour une femme mariée de laisser sa famille pendant 15 jours, et pourtant ça se fait, et les femmes adorent ça parce que ça leur donne le moyen d'apprendre et de se rendre autonome. Et c'est vraiment à tous les niveaux, et tout ça, il ne faut quand même pas le nier, a été rendu possible par le fait qu'il y ait les IEPG, c'est-à-dire des femmes en armes, qui renversent les rôles totalement, le rôle traditionnel de l'homme qui va défendre le pays, la famille, et qui revient, et à qui évidemment on doit tout, puisque c'est, voilà. Donc le schéma machiste masculiniste est complètement bouleversé, parce qu'évidemment on imagine mal la jeune combattante qui revient de la bataille de Raqqa avec son fusil sur l'épaule et qui rentre dans sa famille, on imagine très mal son grand frère lui dire « Berivan va me faire le café » parce que lui, il est resté garder les chèvres. Donc, il va aller faire le café lui-même. Et c'est un bouleversement de tous les codes et c'est magnifique.
On serait avisé de s'y intéresser et de lui prendre comme modèle également pour nos régions.
Absolument. On est encore très loin de ça, oui.
Alors c'est très bien, on va terminer par ça, par ce mot que tu viens de dire, la science des femmes, pour les femmes, avec les femmes, la généalogie, qui s'exporte d'ailleurs un petit peu partout dans le monde de plus en plus. De quelle manière est-ce que les personnes peuvent suivre tes travaux, retrouver ce documentaire-là, te contacter? Y a-t-il un site internet?
On n'a pas de site, mais nos films sont sur YouTube, accessibles à tous et en libre service. Voilà. Donc le premier s'appelle Une utopie au cœur du chaos syrien, et le deuxième s'appelle Rojava, entre utopie et compromis.
www.libradio.org La radio qui vient à ta rencontre.